Siri, comment tu vas ?
Je vais bien, merci.
Digital, une émission proposée par les étudiants de l'Université de Nîmes Campus de Mende, 48FM et Lozère Développement grâce au programme DEFIOC de la région Occitanie.
Bonjour à tous et à toutes, il est midi et demi, bienvenue sur ce nouveau numéro de 48 Digital. Nous sommes en partenariat et en direct du pôle lozérien d'économie numérique et sur la radio 48FM, ainsi que sur la page YouTube de Lozère Développement. Je suis Christophe et je serai votre présentateur de ce jour. Je suis étudiant en licence professionnelle CNEA de l'antenne universitaire de Nîmes à Mende. Je serai accompagné aujourd'hui de trois de mes camarades, Shadia, Jean-Marie et Cyril. Dans cette dernière émission, nous allons aborder le numérique responsable. Ce concept de numérique responsable, qui prend de plus en plus d'importance, soulève des questions à la fois techniques, éthiques et environnementales. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par numérique responsable ? Il s'agit d'un usage du numérique qui prend en compte des enjeux sociaux, environnementaux et économiques, en cherchant à limiter l'empreinte écologique des technologies, tout en respectant le droit humain et en favorisant des pratiques éthiques. Existe-t-il des moyens pour limiter la consommation énergétique des data centers ? Est-il possible de reprendre le contrôle de notre monde digital et orienter cette évolution vers des pratiques plus durables ? Quel pourrait être l'impact à long terme d'un virage vers un numérique plus responsable sur notre société et notre environnement ? Ce sont ces questions cruciales que nous allons explorer aujourd'hui dans cette émission consacrée à la réflexion sur un numérique plus responsable. Pour répondre à nos questions et nous partager son analyse du sujet, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Monique Commandré. Bonjour Madame Commandré.
Oui, bonjour.
Ravi de vous accueillir.
Ben, merci beaucoup de votre invitation. Merci.
Madame Commandré, vous êtes à la fois enseignante et responsable d'un établissement d'enseignement supérieur. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de la manière dont votre expérience dans ces deux domaines influence votre vision du numérique responsable ?
Oui, alors mon parcours, moi je suis maître de conférence en information communication. Pour tout avouer, j'ai grandi, voire vieilli avec le web et son développement, puisque moi j'ai présenté un doctorat sur les questions de numérique, et plus particulièrement l'utilisation du numérique dans le secteur de l'éducation et de la formation. Donc voilà, je commence à avoir une vision assez ancienne du web, et du coup j'ai suivi son développement. Désormais, je suis basée à l'antenne de Mende, qui dépend de l'établissement public expérimental Nîmes Université. Et effectivement, j'assure la direction de ce campus de Mende. Donc c'est peut-être plus en tant qu'enseignante-chercheuse qu'aujourd'hui je vais témoigner sur la problématique du numérique responsable. Je tiens à souligner que je trouve que c'est intéressant pour des étudiants qui travaillent et qui visent à intégrer le secteur du numérique de se poser la question du numérique responsable.
Très bien. Est-ce que vous êtes impliqué dans des projets particuliers en ce moment qui visent à intégrer des pratiques plus durables dans le numérique ?
Alors, pas directement en ce moment dans des projets de recherche, hein, même si la problématique du numérique responsable, qui me semblerait intéressante de définir, vous en avez donné une définition qui est tout à fait intéressante et large, mais on peut aussi considérer que ce numérique responsable, cette problématique, elle se pose à un moment où finalement la technologie, les technologies numériques et notamment les technologies du web arrivent à un point de maturité. Voilà, ça fait 35, 40 ans que ces technologies sont omniprésentes dans notre quotidien, plus de manière vraiment très significative et quotidienne depuis 25 ans. Voilà, quand on arrive à une phase de maturité comme ça dans les usages d'une technologie, c'est important, on peut prendre du recul en fait sur ce que comportent ces technologies, et c'est important de pouvoir prendre de la distance sur ces usages. Et du coup, ce numérique responsable, comme vous l'avez dit, recouvre plusieurs problématiques, hein, des problématiques techniques, des problématiques éthiques et des problématiques sociales. Donc c'est important de, voilà, au bout d'un moment, avec une maturité dans les usages qu'on a du numérique au quotidien, de pouvoir se distancer, de pouvoir prendre du recul et de considérer un peu les effets secondaires de ce développement du numérique. Et donc, si vous me permettez, Christophe,
oui, bien sûr, pas de soucis,
je vous en remercie. Je ferai un petit parallèle, le numérique responsable et puis la question du raisonnable. Moi, en tant que scientifique, c'est comme ça que j'ai envie de l'aborder. Il faut désormais, maintenant que ces technologies font notre quotidien, pouvoir convoquer un raisonnement scientifique qui nous permette de mettre à distance les avantages et les inconvénients de ces technologies. Et je ferai un parallèle avec le terme de raisonnable. Et puis, on a entendu parfois des expressions autour de l'agriculture raisonnée, par exemple. Pour moi, c'est un peu la même chose. Hein. Considérer le numérique avec raison, c'est un peu comme quand vous êtes en responsabilité ou suffisamment mature pour conseiller un enfant qui va trop manger de friandises, lui indiquer qu'il faut qu'il s'arrête parce que sinon il va être malade. Et bien, c'est un peu la même chose pour le numérique. Hein. Je pense que le niveau de maturité aujourd'hui nous permet de dire attention, les usages, bien sûr, sont omniprésents et font notre société et font notre quotidien dans toutes les organisations professionnelles. Mais néanmoins, attention à ne pas frôler l'indigestion et à ne pas abuser de ces avantages que sont le numérique. Et pour revenir à votre question, donc pas des projets directement en recherche actuellement. Je travaille sur d'autres thématiques. Néanmoins, ça fait à peu près 25 ans que je fais de la recherche sur le numérique avec toujours une orientation sur le technologique collaboratif, qui est un des aspects, une des parties qui peut permettre d'atteindre des objectifs de numérique responsable. Donc, pas en ce moment, mais depuis très longtemps, je suis des projets de recherche autour de ces questions-là avec de nombreux partenaires que je pourrais citer, mais on en reparlera peut-être.
Très bien, merci à vous. On parle souvent d'impact écologique du numérique, mais qu'en est-il de l'impact social ? Comment le numérique responsable peut-il influer sur notre manière de travailler, de communiquer ou des inégalités sociales ?
Oui, alors pareil, si vous me permettez, je vais cadrer un petit peu plus large. Effectivement, la question sociale, elle est première et les impacts ne sont pas neutres en la matière. Mais pour bien comprendre cette question du numérique responsable, je pense que c'est important de se rappeler que effectivement, dans l'impact du numérique qui représente, et je crois que selon un rapport de l'ADEME, ça sera certainement répété tout à l'heure par votre prochain invité, mais le numérique représente 2,5 des émissions de CO2. 2,5% des émissions de CO2 au niveau national, 4% au niveau mondial. Mais ça, c'est si on regarde seulement effectivement l'impact énergétique et environnemental. Et effectivement, pour bien comprendre ce numérique responsable, il faut considérer d'abord les composants de nos supports, les supports eux-mêmes et la question de la durabilité, de la pérennité, de l'obsolescence de ces supports. Ensuite, la question, bien sûr, du stockage des données. Et puis, la question sociale, sur laquelle effectivement vous faites bien de mettre l'accent et la lumière. Alors l'impact social, en élargissant le cadre, on peut déjà le considérer au niveau de l'extraction des métaux et des minerais qui sont indispensables à la construction de nos supports, de nos technologies, et toute la question de l'exploitation humaine aussi, du travail des enfants autour de l'extraction de ces métaux et minerais essentiels à nos technologies. Donc ça, c'est le premier impact social qu'on pourrait signaler dans ce cycle de vie. Ensuite, on a la question des usages qui vient. Alors, dans les cycles de vie du numérique, il y a la question de l'extraction, de la fabrication et toute sa consommation d'énergie. Ensuite, il y a la question des usages. Et moi, c'est vraiment sur cet aspect-là que je pense qu'on peut faire avancer nos auditeurs et collectivement se poser la question de comment atteindre des objectifs pour un numérique responsable. Ensuite, la question du recyclage de nos supports et de nos outils. Et donc, pour revenir, à votre question sur l'impact social, eh bien sûr, hyperconnectivité, info-obésité, ce sont des expressions qui traduisent bien les mots de notre siècle autour du numérique, de notre époque. Donc, hyperconnectivité, la problématique de l'addiction à une connexion permanente, à un scroll permanent, à une recherche d'informations permanente. L'info-obésité, qui est plutôt l'expression qu'on va utiliser pour parler des problématiques dans les organisations de traitement de l'information. J'ai consulté plusieurs études qui montrent comment les salariés finalement passent parfois la moitié de leur temps de travail à traiter de l'information qui ne les qui ne les concernent pas directement et qui passent finalement plus de temps à traiter de l'information qu'à faire la tâche pour laquelle ils sont employés, avec des informations qui parfois vraiment ne les concernent pas. Donc il y a toute cette problématique aussi en termes d'impact social qu'il faut considérer dans les organisations. Comment faire mieux en fait ?
Merci à vous. En tant qu'enseignante-chercheuse, vous avez une vision plus théorique et pédagogique du numérique responsable, mais comment cette vision se confronte-t-elle à la réalité de la gestion d'une institution, surtout lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des changements concrets ? Existe-t-il des tensions entre ces deux perspectives ?
Alors, je vous remercie, je vais bien, je ne suis pas en train de frôler la schizophrénie. Pour moi, il n'y a aucune tension, et puis vous m'enfermez dans une vision pédagogique et théorique. C'est mon métier, hein, l'enseignement, évidemment, c'est ma première des priorités. Mais ma vision pédagogique et théorique serait-elle opposée à celle des professionnels ? Bon, je ne sais pas, peut-être mon collègue tout à l'heure complétera. Je ne crois pas qu'elle soit... en opposition, ni même en tension. Vous voyez, dans ma fonction de directrice d'un campus, je suis confrontée à ces questions d'usage du numérique, même si je ne suis pas décisionnaire. Donc, pas de tension. Après, je pense que la question du changement va passer d'abord par une meilleure connaissance des enjeux de ce numérique responsable, et puis donc du coup par de la formation. Et puis, les questions de changements qui sont effectivement plus longs à mettre en place. C'est pas une opposition avec une vision qui serait plus théorique. C'est juste que il y a une inertie dans les organisations et que ça prend du temps, hein, de changer ses procédures de travail, de changer ses habitudes de travail. Il faut dire que depuis 25-30 ans, les entreprises, de la moindre TPE aux plus grandes entreprises, bien sûr, il y a une injonction à s'équiper en numérique, à concevoir sa chaîne de valeur, sa chaîne de production avec une variable numérique qui est omniprésente, et que on manque parfois de recul. Enfin, les entreprises peuvent manquer de recul, de connaissances pour aller vers un numérique plus responsable. Donc, je crois que la tension que vous mentionniez, elle est plus relative à l'inertie qu'il y a dans les organisations. Ça prend du temps de mettre des choses en place. Donc là, on stabilise à peine les process de travail, les chaînes de production avec les technologies du numérique. Alors, se pencher sur le numérique responsable, je ne doute pas que votre émission contribue, en toute humilité, à permettre aux entreprises, aux acteurs socio-professionnels, de se rendre compte que ce n'est pas inatteignable et qu'il s'agit juste de réintroduire un peu de régulation dans des pratiques du quotidien.
Très bien. Étant donné que vous êtes impliqué dans l'enseignement, comment les préoccupations concernant le numérique responsable peuvent-elles être intégrées dans les programmes académiques de manière réaliste ? Au-delà des aspects techniques, et comment cette approche peut être appliquée dans différents types d'organisations ?
Ok, ça fait beaucoup de questions, mais le numérique responsable dans nos formations, alors malheureusement, enfin quoi que c'est au cœur de la formation de la licence pro conception et rédaction et réalisation pour le web, qui forme vraiment au métier du numérique, c'est insuffisant à ce stade, mais c'est une dimension, le numérique responsable, qui sera intégrée dans nos prochaines versions et nos prochains programmes de formation. Pour l'heure, c'est peut-être pas suffisant, même si je crois savoir que nos étudiants sont extrêmement sensibilisés à la question de l'utilité des interfaces qu'ils vont concevoir. Et je crois qu'autour de la question du numérique responsable, on est aussi sur cette question de quelle technologie utile et quelle information utile véritablement à nos organisations ou à titre individuel. Donc, sur la filière numérique, on peut mieux faire, on fera mieux sur les prochains programmes, mais je ne doute pas que les étudiants autour de ce mot d'ordre permanent de l'utilité des interfaces comprennent les enjeux aussi qu'il y a derrière. Par ailleurs, on a dans le programme de Master Tourisme Management des Transitions, on a plusieurs cours, alors c'est l'actualité hein, de cet après-midi, même avec cette classe, un cours sur les enjeux du numérique, où on regarde vraiment justement de manière très appliquée comment les organisations touristiques, soit des prestataires ou des organismes de gestion de la destination, comment ils utilisent le numérique, comment ça devient extrêmement complexe d'avoir à assurer l'interopérabilité entre tous ces outils pour un prestataire touristique. Et puis, on remet en cause ensuite et on voit comment on pourrait faire différemment avec justement une préoccupation pour un numérique plus responsable. c'est ce cours Enjeux du numérique, mais en Master 1, Tourisme, Management des Transitions, il y a plusieurs cours qui tournent autour des technologies collaboratives, des technologies participatives, et c'est une partie des solutions pour un numérique plus responsable. Donc, dans nos programmes de formation, très intégrer cette thématique du numérique responsable au niveau master, au niveau de la licence pro CNEA, peut-être pas suffisamment dans l'affichage, mais je sais que nos étudiants ont néanmoins intégré les problématiques et compris l'importance de leur métier à concevoir des interfaces utiles. Et puis par ailleurs, quand on parle université et quand on parle numérique responsable, il y a une problématique d'accessibilité aussi qu'il faut pas oublier. Alors, c'est pas les publics qui sont concernés. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure sur votre question de l'impact social, il ne faut pas oublier que l'usage systématique des technologies du numérique peut provoquer une forme d'exclusion, de fracture numérique, hein, de difficulté à accéder aux outils du numérique. Et comme ces outils aujourd'hui font société, ben, ça peut mettre quelques personnes à la marge.
Pour les personnes âgées ou les personnes en difficulté, qui ont des handicaps par exemple.
Alors il y a la question de l'accessibilité effectivement pour toute forme de handicap, mais de manière plus large c'est l'électronisme dont je parle ici, hein, de la difficulté finalement de finir sa déclaration d'impôt, de ne pas s'y retrouver dans ces interfaces et de se retrouver finalement un peu exclu de cette société hyper numérisée. Et puis sur la question de l'accessibilité, je parlais d'accessibilité au sens financier. Nous en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, et ce sont des réflexions qui commencent à mûrir, on peut réfléchir à une politique d'achat, une politique de maintenance de nos outils numériques. Hein. Bien sûr, on doit faire avec, on forme les générations du futur. Hein. Donc, bien sûr, on est obligé de suivre et d'accompagner nos étudiants dans la découverte des technologies numériques. Et à la fois, curieusement, parce que la précarité étudiante n'est pas... c'est une réalité. On peut aussi être vertueux dans l'accompagnement des étudiants pour qu'ils aient accès à des supports numériques. Alors, ils sont tous équipés de smartphones, hein, mais ça fait pas tout le travail, parfois, les smartphones. Et donc, la mise à disposition de PC, une politique de maintenance qui permette aussi de réparer les supports qui deviennent obsolètes ou recomposer. Ça fait partie aussi des points sur lesquels on est en réflexion et sur lesquels on pourra certainement avancer dans les très prochains mois.
Très bien, merci. Avec la croissance rapide du numérique, quel rôle un établissement académique comme le vôtre peut-il jouer dans la préparation des futurs professionnels à adopter des pratiques responsables, et ce, tout le long de leur carrière ?
Mais c'est du pain béni, votre question. La formation et rien que la formation. Pour cette prise de recul que j'évoquais tout à l'heure, bien sûr, un chef d'entreprise, il est là, il faut qu'il fasse tourner la boutique. Il ne se dit pas toujours comment je peux me préparer à intégrer cette variable de numérique responsable. Donc la formation initiale, hein, puisque au campus de Mende, par exemple, où nous avons une formation donc dans le secteur du numérique, en formation initiale ou en formation continue, c'est-à-dire tout au long de la vie, hein, pour venir suivre juste un module de formation, notre rôle, il est là, hein, essentiellement. Et puis, dans la problématique d'un enseignant-chercheur, il y a la recherche, qui peut être une recherche développement, où on va concourir au développement technologique, et puis une recherche appliquée, et elles ne sont pas contradictoires ces deux recherches, une recherche appliquée où on va bien sûr introduire de la technologie, mais accompagner aussi son appropriation et travailler notamment sur l'accompagnement des usages de ces technologies.
Très bien. Nous allons laisser la parole à Jean-Marie sur la question « Existe-t-il des moyens pour limiter la consommation des data centers ?» Jean-Marie, tu as étudié la question, nous t'écoutons.
Merci Christophe pour l'accord de la parole. Alors nous allons parler du cloud responsable ou green cloud. Le cloud responsable, encore appelé green cloud, vise à réduire l'impact environnemental du cloud en limitant la consommation énergétique des data centers, en optimisant les ressources informatiques et en favorisant les énergies renouvelables. Essentiel au stockage et au traitement des données, le cloud repose sur des infrastructures énergivores, notamment des data centers qui consomment 1% de l'électricité mondiale, un chiffre qui pourrait atteindre 8% d'ici 2030, sans mesure durable. Fonctionnant en continu, ces centres nécessitent une alimentation constante et des systèmes de refroidissement énergivores, accentuant ainsi leur empreinte carbone. Pour un cloud plus responsable, plusieurs stratégies sont mises en place. L'optimisation énergétique des data centers passe par la virtualisation et la mutualisation des serveurs, réduisant ainsi le nombre des machines physiques. De plus, des solutions de refroidissement écologique comme le free cooling, utilisant l'air extérieur ou l'immersion des serveurs dans les liquides thermoconducteurs, permettent de limiter la consommation d'énergie des climatiseurs traditionnels. L'adoption des énergies renouvelables est essentielle pour un cloud plus durable. Les entreprises comme Google, Microsoft et AWS investissent dans des infrastructures alimentées par l'éolienne, le solaire et l'hydroélectrique. Microsoft vise un bilan carbone négatif d'ici 2030, tandis que Google veut fonctionner exclusivement avec des énergies renouvelables. D'autres acteurs comme Scaleway et OVH développent des solutions cloud plus écologiques en utilisant de l'électricité décarbonée et en optimisant l'efficacité énergétique de leurs data centers. Au-delà des infrastructures, une gestion responsable des ressources numériques est essentielle. La surconsommation des serveurs due à l'explosion des données peut réduire en adoptant des pratiques plus sobres. Notamment la suppression des fichiers inutiles, la limitation du stockage à long terme et l'utilisation des logiciels optimisés. Les développeurs ont également un rôle clé en concevant des applications et des services plus légers, réduisant ainsi la puissance de calcul et la bande passante nécessaire. Cependant, malgré ces avancées, plusieurs défis majeurs persistent. Le coût élevé des infrastructures durables freine leur adoption, nécessitant d'importants investissements en recherche et modernisation des anciens data centers. De plus, le manque de transparence environnementale des fournisseurs cloud complique l'évaluation de leur véritable impact écologique, car peu d'entreprises publient des bilans précis sur leur empreinte carbone et leur engagement en développement durable. Et enfin, pour que le Green Cloud devienne une norme et non une exception, il est essentiel que les gouvernements mettent en place des réglementations plus strictes, que les entreprises investissent dans des solutions plus vertes et que les utilisateurs adoptent une approche plus responsable de leur consommation numérique. Le cloud computing étant devenu un pilier central du monde digital, il est impératif d'en assurer un développement durable afin de concilier innovation technologique et respect de l'environnement.
Merci Jean-Marc. Madame Commandré, quelles actions les entreprises peuvent-elles mettre en place pour adopter des solutions de cloud plus durables et respectueuses de l'environnement ?
Oui, alors souvent c'est la partie la moins facile à se représenter, hein, cette problématique du stockage des données qui est pourtant tout à fait importante dans ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Alors le cloud, oui, alors ça commence à effectivement, comme le disait Jean-Marie, à évoluer, hein, notamment les hébergeurs, les fournisseurs de cloud qui commencent à mobiliser des critères tels que le nombre de litres d'eau qui sont utilisés pour le stockage des données. Voilà, d'autres sur des critères sur la question de la consommation énergétique. Donc c'est très bien. Il y a aussi des tableaux de bord qui commencent à se développer auprès de ces hébergeurs. Néanmoins, moi je dirais que Jean-Marie l'a évoqué, hein, les questions d'énergie qui sont consubstantielles à l'utilisation de ces serveurs de stockage de données. Voilà, c'est beaucoup de consommation énergétique de par les serveurs. Eh bien, il faut les refroidir, ces serveurs. Donc, ça fait beaucoup, effectivement, d'énergie. Et puis, je crois qu'on peut se poser aussi la question de la souveraineté. Parce que sur ces questions énergétiques, bien sûr, on peut trouver des solutions, des énergies plus verte, l'installation de ces entreprises qui font de l'hébergement de données dans des zones qui sont moins chaudes, climatiquement parlant. Voilà, il commence à y avoir des solutions, mais moi je dirais que la meilleure des solutions pour traiter cette question du stockage, c'est produire moins et produire mieux de données.
C'est vrai que c'est le plus simple à faire, c'est vrai.
Du moins réfléchir à la régulation possible en matière de stockage des données. Il y a quelques pistes qui ont été évoquées par Jean-Marie. Effectivement, nettoyer, on est dans une sorte de logique d'accumulation des données depuis le numérique, comme si c'était un puits sans fond. Non, à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'une organisation, voilà quelles sont les données utiles. Ça vaut le coup de se poser la question pour réduire la masse de données stockées et du coup être plus vertueux en matière de stockage.
Oui, c'est vrai. En dehors des technologies, comment les organisations peuvent-elles intégrer des préoccupations écologiques dans leur gestion quotidienne, notamment en matière de formation ou de gestion de données ?
Alors, la formation, bienvenue à l'université qui produit une formation gratuite, publique, supérieure, appuyée, adossée à la recherche. Donc, ça me paraît essentiel et je répète, on peut venir suivre une formation modulaire courte, mais d'autres acteurs participent à l'accompagnement des entreprises. Donc, je crois que c'est important de sensibiliser toutes les strates de l'entreprise, de l'organisation pour qu'elles prennent conscience de sa contribution à l'échelle individuelle. Et puis, je disais tout à l'heure, produire moins pour produire mieux. Ça me paraît être une dimension aussi, un paramètre, un enjeu qui est tout à fait à la portée d'une entreprise. Réfléchir à sa stratégie éditoriale. A-t-on véritablement besoin, si on parle non pas données internes à l'entreprise, mais stratégie commerciale, a-t-on vraiment besoin d'être sur 3, 5 réseaux sociaux ou est-ce que c'est pas mieux de finalement se concentrer sur le réseau, la technologie, la plateforme qui va être utilisée par notre client et lui apporter un contenu qui soit véritablement pensé pour cet utilisateur. C'est aussi sur ces aspects-là qu'on peut faire mieux. Il y a des tas de stratégies de démarketing qui commencent à se mettre en œuvre. Et puis la coopétition, le partage des dossiers, je parlais tout à l'heure des technologies collaboratives, j'allais les oublier, c'est une partie aussi de la solution, faire en sorte de sortir d'une logique de document qui est historiquement ancrée dans nos habitudes. On est habitué à travailler avec des PC. PC, ça veut dire personal computer. Et c'est presque un peu une dimension historique dans nos habitudes et notre rapport à la technologie. On est tous un peu des secrétaires de l'information. Mais on se trompe. En fait, le PC, aujourd'hui, et cette logique, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ça prend du temps pour changer ces représentations qui sont ancrées. On n'est plus dans cette logique du personal computer et de mon document, il est à moi et je ne le partage pas. Non, l'information que vous travaillez dans un cadre professionnel, elle est à l'échelle de l'organisation. Donc les technologies collaboratives, les fichiers partagés, c'est un petit pas qui favorise et diminue l'impact des données, l'impact numérique et l'impact environnemental des données. Et puis qui participe aussi de la une meilleure fluidité, sans doute d'une meilleure organisation, une meilleure production. Quand tout à l'heure on disait il y a info-obésité et un salarié peut passer 50% de son temps de travail à traiter de l'information qui ne le concerne pas directement, c'est que la problématique de l'information dans l'organisation, celle qui lui est utile pour fonctionner, alors elle se transforme en données, et ben non, il faut qu'elle reste au niveau de l'information utile et que le stockage des données soit pensé à la lueur de cette information utile pour l'organisation.
Très bien. En effet, que l'on soit conscient ou non de son impact, il y a une réalité qui nous touche tout au quotidien et qui devient de plus en plus préoccupante, la pollution numérique. C'est ce qu'on appelle le numérique intensif. Shadia, tu as approfondi cette question.
Merci Christophe. Donc comme on a dit, le numérique intensif, c'est une pollution cachée. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde ultra connecté. On envoie des mails, on regarde des vidéos, on stocke des milliers de fichiers. Mais derrière cet usage massif du numérique se cache un impact écologique bien réel, une consommation d'énergie explosive. Chaque action numérique, aussi anodine soit-elle, consomme de l'électricité. Les mails. Un mail avec une pièce jointe peut générer jusqu'à 50 g de CO2, soit l'équivalent d'une ampoule allumée pendant plusieurs heures. Imaginez ce que cela peut représenter quand on stocke des milliers de mails inutiles. Le streaming vidéo, regarder Netflix, YouTube et TikTok, en haute définition, représente 80% du trafic Internet mondial et nécessite des serveurs puissants fonctionnant en permanence. Et bien sûr les data centers, ces immenses infrastructures stockent nos données et tournent H24, nécessitant une climatisation constante pour éviter la surchauffe. Résultat, leur consommation électrique dépasse celle de certains pays. Donc, qu'est-ce que le numérique intensif peut poser comme problème ? Nous avons pris l'habitude d'utiliser Internet sans limite, mais cela a bien sûr des conséquences. Premièrement, une pollution numérique. Si Internet était un pays, il serait le troisième plus grand consommateur d'énergie au monde, après la Chine et les États-Unis. Une explosion des déchets électroniques, nos appareils sont remplacés plutôt trop vite, générant des montagnes de déchets difficiles à recycler. Enfin, mais non des moindres, une surconsommation invisible. Nous n'en voyons pas l'impact de nos actions numériques, ce qui rend le problème encore plus difficile à percevoir et à combattre. Alors, comment réduire cet impact sans renoncer au numérique ? Trier bien sûr sa boîte mail, supprimer les messages inutiles et se désabonner des newsletters non lus, limiter le cloud, sauvegarder uniquement ce qui est nécessaire et privilégier le stockage local, optimiser sa consommation de vidéos, donc regarder en basse définition quand c'est possible et éviter le streaming en continu. Et finalement, allonger la durée de vie de ses appareils. Réparer plutôt que remplacer, acheter le reconditionné plutôt que le neuf. Donc, le numérique intensif est devenu un réflexe, mais il est temps d'en prendre conscience. Adopter des habitudes plus responsables, ce n'est pas renoncer au numérique, c'est l'utiliser intelligemment. Donc, prête à faire un peu de ménage à ta boîte mail ?
Merci Shadia. Qu'avez-vous pensé de cette chronique, Madame Commandré ?
Oui, très bien, Shadia, aussi, parce que vous commencez à avancer des solutions. Merci beaucoup. Avancer des solutions tout à fait palpables pour l'entreprise. Hein, supprimer les mails qui datent de trop. En termes de navigation sur Internet, on va peut-être privilégier, par exemple, l'utilisation des signets ou des marque-pages plutôt que à chaque fois de reproduire une requête sur les moteurs de recherche. Au niveau des organisations, parce que juste je voudrais rectifier, c'est pas le numérique qui est intensif, hein, c'est l'usage qu'on en fait, hein, en soi. Donc c'est à la portée de tout un chacun de réguler ses usages en réfléchissant à qu'est-ce qui est utile à votre journée ou qu'est-ce qui est utile à votre organisation. En termes de solutions, donc quelques-unes qui ont été énoncées par Shadia, effectivement, la vidéo a un poids tout à fait conséquent. Ça représente près de, je crois, 80% aujourd'hui du trafic sur Internet, la consultation de vidéos. Alors, parfois sur des formats très courts, très addictogènes, je dirais, même ces formats très très courts pour certaines générations. Donc, là aussi, la consommation de vidéos, comment faire mieux et pareil sur la production de vidéos. Au niveau des entreprises, on peut suggérer, il y a des nouvelles solutions qui apparaissent. Alors, je ne veux pas mentionner une entreprise plus qu'une autre, mais je peux mentionner quand même l'entreprise Lysio, qui est basée dans l'Hérault et qui vous propose d'équiper votre site web d'un plugin qui va vous permettre de proposer à vos utilisateurs un affichage différencié, dont l'affichage sobre et allégé, qui réduit le nombre de vidéos, qui réduit le poids des vidéos, de manière à ce que vous accédez à l'information, hein, si c'est la troisième fois que vous revenez sur le site de l'Office du Tourisme de Mende, qui est équipé de cet affichage sobre et allégé, je fais des liaisons là où il n'y en a pas. Vous pouvez, en tant qu'utilisateur, vous n'êtes pas obligé de vous retaper, revoir pour la 3e ou 4e fois la vidéo que vous avez déjà, dont vous avez déjà eu connaissance, mais vous pouvez proposer et vous, en tant qu'utilisateur, actionner cet affichage sobre et allégé. Voilà, ça fait partie des bonnes habitudes qu'on peut mettre en place au niveau de l'entreprise et puis, bien sûr, au niveau des usages individuels.
Merci à vous, Madame Commandery, pour votre intervention.
Merci à vous.
On se retrouve juste après la pause musicale. Nous sommes de retour dans cette seconde partie d'émission, toujours autour du thème du numérique responsable. Et cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur les alternatives qui existent pour rendre notre usage du numérique plus éthique et durable. Aujourd'hui, les solutions alternatives sont nombreuses, que ce soit pour protéger nos données personnelles ou réduire notre empreinte écologique, mais quelles sont les initiatives concrètes et comment pouvons-nous les intégrer dans notre quotidien ? Pour en parler, nous sommes très heureux d'avoir à nos côtés Maxime Morlac.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes ingénieur spécialisé énergie et environnement. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel et de la manière dont votre expertise dans les domaines de l'énergie et l'environnement s'applique aux enjeux du monde du numérique ?
Merci beaucoup de nous recevoir. Comme vous l'avez dit, j'ai commencé mes études avec un diplôme d'ingénieur dans l'énergie. Mon premier métier, c'était de déployer des projets d'énergie renouvelable en toiture de bâtiment. J'ai fait ce travail pendant à peu près 2 ans à Lyon et ensuite je suis monté à Paris pour faire une année de spécialisation. L'objet de cette année de spécialisation, qui était donc à l'École des Mines de Paris, c'était comprendre comment faire rentrer cette fameuse transition écologique dans les organisations, comment concrètement le faire rentrer dans les entreprises, dans les collectivités, etc. J'ai travaillé chez Nexity aussi également, au sein de la direction RSE, donc la direction de la responsabilité sociétale des entreprises. Et aujourd'hui, depuis un an, je travaille en tant que consultant, donc j'accompagne les entreprises et les collectivités au travers de cette fameuse transition écologique. Concrètement, en fait, il y a deux segments dans ce métier-là. Un premier segment qui s'adresse plutôt à la stratégie de l'entreprise, c'est comment on va mettre en place une politique RSE dans l'entreprise. Comment ça se met en place, comment on l'incarne et on la fait vivre en interne. Et un autre sujet qui est plus technique, qui va s'attaquer directement à l'impact environnemental de l'entreprise. Donc cet impact environnemental, ça passe par exemple par les émissions de gaz à effet de serre, où on va faire une étude technique, on va étudier l'empreinte carbone de l'entreprise, on va regarder les émissions qu'elle émet sur un an, pour à terme justement réduire ces émissions-là, et donc réduire au global l'impact environnemental de l'entreprise. Du coup, vous l'avez entendu, mon métier n'est pas spécialisé sur le numérique. En tant qu'ingénieur énergie-climat, mon métier, c'est de comprendre comment les activités humaines, toutes les activités humaines, ont un impact sur l'environnement et comment on fait pour réduire au minimum nos impacts individuels, collectifs, en tant qu'individu, professionnel, etc.
Très bien. Quels sont vos projets sur lesquels vous travaillez actuellement, particulièrement en lien avec la responsabilité environnementale et sociale dans le domaine du numérique ?
En ce moment, avec les entreprises, je travaille, on va retrouver les deux segments dont je viens de vous parler en fait. Hein. Je travaille à mettre en place une politique de responsabilité sociétale. Cette politique-là, on va apprécier tous les impacts de l'entreprise sur son environnement, sur l'extérieur. Mais donc les sujets liés à l'impact environnemental, mais aussi des sujets liés à l'éthique, à la manière dont on travaille ensemble, etc. Dans ce travail-là, on va trouver plusieurs sujets. Je vais prendre un exemple qui est pour lequel je ne travaille pas, mais une entreprise concrètement qui se lance là-dedans, dans la RSE à la SNCF, je pense à la SNCF par exemple, qui avait identifié que dans sa politique RSE, appliquée au numérique, elle voulait appliquer la sobriété, on en a un peu parlé, je pense qu'on en reparlera, et elle voulait ajouter l'inclusion. Je mets en place un service numérique qui doit être inclusif. Il y a des personnes qui ne sont pas capables d'utiliser les services numériques. Donc, comment on est inclusif au travers de notre pratique du numérique ? Donc voilà, ça c'est un projet concret qui peut venir dans le cadre d'une politique RSE. Sur la partie un peu plus technique, comme je disais, par exemple, on parle d'empreinte carbone. Dans mon métier, je fais des bilans carbone. Le bilan carbone va questionner tous les impacts de l'entreprise en prenant en compte toutes ses consommations. Et la consommation de données, par exemple, sera prise en compte dans ce bilan carbone. Voilà, pour citer un peu concrètement comment ça peut se matérialiser.
Vous parliez tout à l'heure du métier de consultant RSE, mais dans quel type de domaine d'activité travaillez-vous en priorité ?
En fait, c'est un métier qui est multisectoriel. En fait, je viens du monde de l'énergie au départ, c'était ma formation initiale. Et en fait, l'énergie, c'est super multisectoriel. La caméra qui nous filme aujourd'hui et le micro qui m'enregistre fonctionnent à l'énergie. En fait, notre monde fonctionne à l'énergie. Et donc, ça s'applique et ça veut s'appliquer à tous les secteurs. Il en va de même pour l'impact environnemental, en fait. Il n'y a pas de secteur particulier. Pour rentrer concrètement, j'ai travaillé dans l'entreprise de l'agroalimentaire, de la rénovation de monuments historiques, de la construction, de la mobilité, d'ailleurs récemment. Donc en fait, c'est un travail qui s'applique à tous les secteurs d'activité.
Est-ce que vous avez déjà travaillé pour des entreprises lausériennes, sachant qu'on est en Lozère actuellement, est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler avec eux ?
En fait, oui, effectivement. Depuis que je travaille en tant que consultant, d'ailleurs mon entreprise domiciliée en Lozère, et je rayonne au moins sur la région Occitanie, jusqu'à même Clermont-Ferrand et Lyon, en fait, mes premiers clients étaient majoritairement lausériens, finalement. Peut-être que je vais en citer un seul, mais l'entreprise Duo Lozère a récemment reçu une reconnaissance une reconnaissance assez exceptionnelle, c'est une première en Lozère, d'un niveau de maturité dans sa responsabilisation justement. Donc voilà, beaucoup d'entreprises lausériennes finalement aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous avez fait pour cette entreprise du coup, pour qu'il soit nommé
Alors, par exemple. Je suis intervenu avec d'autres personnes, notamment le cabinet Genesis et Anne-Marie Nestier. On a travaillé à plusieurs sur ce projet-là. Mais l'objet, c'était de structurer toutes les actions de responsabilisation que met en place l'entreprise. C'est une entreprise, par exemple, qui fait des produits laitiers et qui débat du prix du lait avec ses producteurs. Elle contractualise avec ses producteurs pour mettre en place un prix du lait qui soit juste, qui rémunère justement le travail et qui est calculé en fonction des résultats de l'entreprise qui transforme. Je veux dire, ça c'est un niveau de responsabilisation qui est très élevé et qu'on a aidé à mettre en lumière et à structurer selon un référentiel donné, une norme en fait, une norme ISO. Et donc voilà, structurer l'argumentaire pour pouvoir valoriser au maximum ces actions-là et justifier de quelles actions on va mettre en œuvre à l'avenir pour se responsabiliser justement.
Très bien. Quelles sont les difficultés majeures auxquelles les entreprises font face lorsqu'elles essaient de réduire l'impact carbone du numérique tout en maintenant leur compétitivité ?
Je pense que d'une manière générale, quand on essaie de réduire son impact environnemental, et c'est vrai pour le numérique, mais c'est vrai pour d'autres sujets aussi, le premier sujet, c'est comprendre. Comprendre de quoi on parle, comprendre d'où viendrait le problème, et ça nécessite de se former, premièrement, au sujet, de comprendre le sujet, ce qui se cache derrière, et ensuite, ça nécessite de mesurer. En fait, si je m'attaque au numérique ou à n'importe quel autre sujet, l'idée, ce serait de prioriser notre action sur ce qui aurait le plus d'impact. Si j'ai trois actions à mener, une qui réduirait de moitié mon impact et la troisième qui le réduit à la marge, bah peut-être que mon action, je vais la prioriser sur ce premier sujet qui est franchement impactant. Donc, la première partie de la question qui était quelles sont les difficultés, c'est comprendre, se former. Et ensuite mesurer pour ensuite prendre des mesures qui ont le plus d'impact. Et vous l'avez opposé un petit peu à la compétitivité. Je ne pense pas que ce soit franchement juste, parce qu'en fait, l'autre sujet, ça va être de comprendre quel est l'intérêt pour l'entreprise d'aller vers ça. Et soit on se dit que ce sera un frein à la compétitivité, soit on se dit justement, en fait, la responsabilisation de l'entreprise, c'est un levier de performance, et ce n'est pas du tout opposé à la compétitivité, bien au contraire. Donc en fait, les sujets, ça va être comprendre le sujet et comprendre l'intérêt, l'apport que j'aurai à aller vers ça.
Très bien. Des gestes simples comme vider ses boîtes mail, comme pouvait dire Barbara Pompili, peuvent-ils vraiment faire une différence dans la réduction de l'impact carbone du numérique ? Ou est-ce que l'ampleur du problème exige des changements plus structurels ?
J'avoue que cette prise de parole du gouvernement avait fait sourire dans le monde de l'environnement. On l'avait vu juste avant, effectivement. Le stockage des données a effectivement un impact sur... contribue à l'impact du numérique, on va l'appeler. Maintenant, si je mets un peu ma casquette d'ingénieur et que je parle d'ordre de grandeur, l'ordre de grandeur de l'impact du numérique, en France, les trois quarts de l'impact du numérique, c'est... la production et la fabrication des appareils que j'utilise, du terminal que j'utilise. Un terminal, c'est mon téléphone, mon ordinateur, la télé, en fait, l'appareil numérique que je vais utiliser. Les trois quarts de l'impact du numérique, il est ici. Donc en fait, je pourrais regretter effectivement que cette phrase, elle ne cible peut-être pas l'impact principal du numérique, qui est le renouvellement des appareils, la consommation d'appareils qu'on a. Je donne un exemple. En 2010, on avait 1 milliard d'appareils connectés dans le monde. En 2025, on aura 50 milliards d'appareils connectés dans le monde. En fait, l'impact du numérique, il est majoritairement dû au fait qu'on multiplie le nombre de terminaux et d'appareils connectés. Il est majoritairement dicté par le fait qu'on change nos appareils. Alors, on les change parce que certains arrivent en fin de vie, mais aussi on les change parce qu'il y a une nouvelle technologie qui est apparue, la 5G remplaçant la 4G, il faut changer tous les téléphones portables pour qu'ils soient compatibles 5G. Ça demande de changer tous les terminaux. En fait, l'impact environnemental principal, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, il est un peu ailleurs. Pour conclure sur cette fameuse phrase de Mme Barbara Pompili, oui, effectivement, vider sa boîte mail, ça va contribuer à réduire le nombre de données qu'on stocke. C'est important, il ne faut pas passer à côté. Si, en tant qu'individu, je veux me responsabiliser, éventuellement, ce que je vais me dire, c'est si je dois m'inquiéter, entre guillemets, d'un impact, il ne faut pas que je passe plus de 5 minutes à vider ma boîte mail. C'est important, un jour où je suis devant mon PC et que je peux faire ça, bah, très bien, je vide ma boîte mail. Il y a des méthodes pour le faire. Si vous avez une boîte mail Google, par exemple, il y a des méthodes pour filtrer vos mails qui sont vieux et qui sont lourds, je vais appeler ça lourd. Pour autant, si je dois retenir une action en titre individuel, ce sera beaucoup plus rallonger la durée de vie de mes appareils. L'impact principal, il sera là, rallonger la durée de vie de mes appareils, les réparer quand il y a besoin, ce qui permet d'éviter de les renouveler. Si je dois acheter du neuf, c'est se tourner vers du reconditionné, et en faisant ça, j'aurai beaucoup plus d'impact, je ne saurais pas dire un chiffre à la volée comme ça, mais j'aurai beaucoup plus d'impact que si j'avais effectivement supprimé les mails de ma boîte mail.
Très bien. Comment les entreprises peuvent être évoluées pour minimiser l'impact écologique du numérique tout en respectant les principes de protection des données et d'éthique?
À nouveau, donc je suis pas forcément expert, notamment de la sécurité des données. Là-dessus, je n'oserais pas me lancer là-dessus. Mais à nouveau, pour reprendre l'exemple de la fameuse de SNCF qui a publié donc du coup son plan de réduction d'impact s'agissant du numérique, ils avaient estimé que 2/3 de l'impact du numérique chez SNCF c'était les fameux terminaux, c'est le matériel. Donc ils ont posé la question de quelle est la juste dotation ? Est-ce qu'on n'a pas des appareils en trop ? Quelle est la juste dotation ? Quel est le rythme et la politique de renouvellement des appareils qui est à questionner ? Comment on peut allonger la durée de vie ? Et enfin, comment on peut réemployer et réutiliser ce qu'on a déjà, l'existant ? Et ensuite, 1/6 de leur impact, c'était effectivement l'hébergement des données. Et donc l'hébergement des données, un des leviers par exemple que je vois serait de questionner où sont stockées ces données-là, pour plusieurs raisons. Si la donnée elle est hébergée en France, elle est hébergée sur un serveur qui tourne avec de l'énergie relativement bas carbone. En France, on a une électricité qui est relativement bas carbone, donc je réduis l'impact carbone du stockage de mes données si elles sont stockées en France. Un autre sujet, où j'aurais du mal à m'étendre plus, mais peut-être ce sera matière à réflexion, dans un contexte où une situation géopolitique se tend, se poser la question de où sont stockées mes données, le sont-elles sur des serveurs qui sont par exemple aux États-Unis, éventuellement ça pose une question d'accès aux données et de souveraineté. Et quand on parlait d'éthique, je pense qu'on peut rapprocher ce sujet-là à comment je maîtrise ou où est-ce que je choisis d'héberger ma donnée. Et enfin peut-être, on parle d'héberger des données. Et d'ailleurs, c'était un travail que la SNCF met en avant également. C'était pourquoi est-ce que je stocke ces données-là ? Combien de temps je les stocke ? Et en fait, en a-t-on besoin ? Et là, il y a une forme de sobriété aussi sur la donnée qu'on collecte. Moins je stocke de données, sensibles ou non, moins j'ai d'impact sur mon stockage de mes données, et moins le risque sur ces données-là est important. Voilà, c'est très basique, mais c'est quelques solutions, par exemple, qui sont mises en avant par des grands groupes.
Très bien. Avec la croissance de la consommation numérique, quelles actions concrètes peuvent être mises en place pour limiter l'impact carbone du numérique à l'échelle individuelle et collective ? Pour avoir la réponse, nous allons écouter Cyril qui s'est penché sur le sujet.
Donc, reprendre le contrôle de notre monde digital. Aujourd'hui, le numérique est partout. Internet, les réseaux sociaux, nos smartphones, tout est conçu pour être rapide, facile et surtout rentable pour les géants du web. Mais derrière cette apparente simplicité se cachent des conséquences énormes, qu'elles soient environnementales, sociales et éthiques. Pourquoi ? Tous ces services exploitent nos données, consomment massivement des ressources et génèrent une pollution invisible mais bien réelle. L'omniprésence du numérique n'est pas sans risque. Nos habitudes en ligne sont suivies et analysées et revendues à des entreprises qui les utilisent pour nous influencer, notamment par le biais de publicités ciblées, un scandale très médiatisé qui a mis en lumière cette exploitation de nos données est celui de Cambridge Analytica en 2018. On a découvert que Facebook avait permis à cette société de récolter, sans notre consentement, les données personnelles de millions d'utilisateurs. Ces informations ont ensuite été utilisées pour influencer les élections comme celle de 2016 aux États-Unis. Ce scandale a révélé comment nos données sont manipulées et à des fins politiques et commerciales, soulevant de graves questions sur notre vie privée et le contrôle de nos informations personnelles. Parallèlement à cela, l'empreinte écologique du numérique est massive. Les centres de données qui hébergent toutes ces informations consomment une quantité colossale d'énergie des eaux pour refroidir leurs serveurs. Le streaming vidéo, par exemple, représente une part importante des émissions de CO2 générées par le numérique, sans parler de l'obsolescence programmée où les appareils sont volontairement conçus pour être difficiles à réparer, poussant ainsi les consommateurs à racheter constamment de nouveaux produits, ce qui engendre une montagne de déchets électroniques. Et derrière chaque smartphone, ce sont des conditions de travail souvent inacceptables dans les extractions des matières premières et les usines d'assemblage. Mais il existe des alternatives pour changer tout cela. Par exemple, au lieu de se tourner vers Google qui collecte nos données et consomme une énergie massive, il existe des moteurs de recherche comme Ecosia qui reverse 80% de ses bénéfices à des projets de reforestation, ou l'ILO qui permet aux utilisateurs de choisir les projets sociaux ou environnementaux qu'ils souhaitent soutenir. Si la protection de vos données personnelles est une priorité, il y a aussi Quant, un moteur de recherche français qui respecte votre vie privée. Il existe des alternatives numériques pour presque tout moteur de recherche, smartphone, réseaux sociaux et logiciels. Pourquoi est-il important de changer nos habitudes? Parce qu'en restant passif, nous laissons les grandes entreprises dicter les règles du jeu, souvent au détriment de l'environnement et de notre vie privée et des droits humains. Adopter ces solutions, c'est envoyer un message fort aux grandes entreprises. Nous voulons un numérique plus éthique, plus durable et plus respectueux de nos libertés. Chaque clic compte.
Merci Cyril. Après avoir écouté cette chronique, pourquoi est-il important pour nous au quotidien et au travail de comprendre les impacts environnementaux et éthiques du numérique?
Derrière le numérique va se cacher en fait un progrès technologique. Je ne pense pas que le progrès technologique soit bon ou mauvais en soi en fait. Tout est toujours une question de l'usage qu'on en fait. Et je pense que l'énergie de responsabilisation, ce mouvement de responsabilisation auquel on assiste, qui est mon métier mais qui existe dans la société civile, il nous invite justement à prendre conscience de ces impacts-là, comprendre ce qui est derrière pour justement maximiser les apports bénéfiques de ces solutions-là, parce que ce sont de vrais outils et je pense qu'il est difficile de faire société aujourd'hui ou de faire évoluer la société en se coupant complètement de ces usages-là. Je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable. Pourtant, prendre conscience de ces impacts-là, ça je nous invite justement à les utiliser à bon escient et à maximiser l'apport bénéfique de ces solutions-là.
Très bien. Les alternatives comme les moteurs de recherche écologique ou les téléphones reconditionnés peuvent-elles réellement changer la donne en termes d'impact environnemental?
Je vais répondre en deux parties si vous le souhaitez.
Pas de problème, il y a pas de souci.
La première, sur le reconditionnement, oui. Je le répète parce que je trouve que c'est super important. Les trois quarts de l'impact environnemental du numérique, c'est le terminal. C'est l'outil que j'utilise et que je change potentiellement régulièrement, etc. Donc le reconditionnement, ça contribue largement à réduire l'impact principal du secteur. L'autre partie de la question, est-ce que vous me rappelez la question pour
oui,
que j'y réponde
aussi.
Justement.
Les alternatives comme les moteurs de recherche écologiques ou les téléphones reconditionnés peuvent-elles réellement changer la donne en termes d'impact environnemental?
Merci. Donc du coup, sur ce terminal reconditionné, je vais l'utiliser et je vais faire des recherches sur moteur de recherche. Dans un monde où dans tous les cas je suis obligé de faire des recherches sur moteur de recherche, peut-être vaut-il mieux les faire sur justement un moteur de recherche qui travaille à réduire ce qu'on va appeler ses externalités, tous les effets qu'il a sur l'extérieur. Autant faire ça plutôt que de se tourner vers une solution qui elle ne le fait pas. Voilà, donc est-ce que ça changera la donne à l'échelle? Je l'ignore. En tout cas, j'ai une recherche à faire sur le web, autant que le fasse sur un moteur de recherche qui se responsabilise. Voilà, je vais largement préférer ça.
D'accord. Quels sont les défis majeurs que les entreprises doivent surmonter pour rendre le secteur du numérique plus responsable écologiquement et réduire son empreinte carbone?
On a levé beaucoup de propositions depuis le début de cette émission. Concrètement, du coup, dans l'entreprise, j'avais pris par exemple l'exemple de EDF qui questionnait l'usage des terminaux, le remplacement, etc. Donc, dans l'entreprise, où est-ce que j'ai du numérique et à quelle utilité il a? Je vais prendre un exemple de quelque chose qui m'a apparu comme un manque de sobriété. J'ai mangé au restaurant mercredi dernier et dans ce restaurant-là, il y avait une très belle télé, un très bel écran plat, vraiment grand, bien plus grand que celle qu'il y avait chez moi. Et sur ce télé, tournait en boucle une vidéo YouTube d'une cheminée. Ça apporte certainement une super ambiance dans le restaurant, ça questionne sur quel était le besoin. Avait-on besoin de mobiliser autant de ressources pour cette télé-là et pour faire vivre cette chose-là? Donc ça pose la question de la sobriété et ensuite ça va questionner la question des données et de son utilisation. Voilà, je pense que c'était les deux gros leviers qu'on a levés pendant cette émission.
Très bien. Comment les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent à titre individuel peuvent-elles contribuer à réduire leur empreinte carbone et environnementale liée à l'utilisation du numérique au quotidien?
Oui, s'il y avait quelques actions à retenir à titre individuel, à titre personnel, je dirais c'est allonger la durée de vie des appareils que nous avons. Si on gardait tous notre ordinateur de 2 ans à 5 ans de plus, on réduirait d'un tiers l'impact du numérique. C'est énorme en fait, hein. C'est vraiment énorme. Et donc en fait, allonger la durée de vie, s'il y a besoin, réparer, et quand c'est plus possible, si je dois racheter, je vais racheter du reconditionné en priorité. Ça, c'est les trois actions majeures qui auront le plus d'impact sur l'impact du numérique.
Merci à vous Maxime pour être venu à notre émission. Nous arrivons enfin à la fin de cette émission. Un grand merci à nos intervenants pour leur éclairage précieux et sur ce sujet crucial du numérique responsable, ainsi qu'à mes collègues pour leur collaboration tout au long de cette aventure. Merci à vous auditeurs d'avoir été à l'écoute et d'avoir suivi nos échanges. Nous espérons que cette dernière émission vous aura inspiré et sensibilisé à l'importance d'un numérique plus éthique et responsable. Merci à nos partenaires institutionnels, le Conseil départemental et la région Occitanie par le biais du programme DEFIOC. A très bientôt et encore une fois, merci à tous.